Téchaud d'Albertlot. Commentaire sur le Koan 22 de Lekigan Roku. Le serpent venimeux. J'aimerais aujourd'hui lire et commenter un koan de Lekigan Roku, le koan 22, le serpent venimeux. Le koan se lit comme suit. D'abord l'introduction. L'univers est vaste et infini. Il est comme un grain de poussière. Saisissant et relâchant, entrant et sortant, demeurez en vous-même. Pour vous libérer de vos entraves et couper vos liens, vous devez transcender la forme et le son et supprimer toute trace de l'activité de l'esprit. Dès lors, votre position sera imprenable et votre indépendance totale, telle une falaise haute de 1000 mètres. Et maintenant le cas. Seppo, s'adressant à l'assemblée, déclara « Il y a un serpent venimeux dans la montagne du sud. Faites attention. » Chokei dit « Aujourd'hui, dans ce temple, il y a un grand homme qui perd son corps et sa vie. » Un moine rapporta l'événement à Gensha, qui rétorqua « Seul Chokei pouvait répondre ainsi. » Mais bien qu'il ait raison, je ne suis pas d'accord. Pourquoi faut-il que ce soit la montagne du sud? Umon jeta son bâton devant Seppo et fit semblant d'avoir peur. Ensuite, le poème. Le mont Seppo est trop escarpé pour que les gens l'escaladent. Quiconque le fait doit savoir manier habilement les serpents. Maître Chokei et Maître Gensha ont les mains vides. Y a-t-il quelqu'un qui a perdu son corps et sa vie? Umon sait comment battre des buissons. Nord, sud, est, ouest, nulle part où le trouver. Soudain, le bâton se dresse. Il ouvre grande sa bouche, rapide comme l'éclair. Haussez les sourcils, vous ne le verrez pas. À présent, il est caché sur le mont Seppo. Ce koan est un koan au sujet de la grande mort. Il est essentiel dans notre pratique de consentir à mourir. Et c'est notre réticence à le faire qui nous empêche d'aller au-delà. Nous avons souvent entendu cette expression « Une épée flamboyante donne la vie, donne la mort ». La mort dont il est question ici est la mort du sens de soi. Et ce n'est pas seulement une métaphore. En quelque sorte, c'est une mort véritable. Je me rappelle ce qu'un moine japonais en visite au centre de Rochester nous disait. Il disait, « Votre pratique n'est pas un jeu. Vous devez être prêt à risquer votre vie. » Et je me souviens très distinctement des nombreuses fois durant la pratique où j'ai senti que si je continuais, j'allais mourir. Vraiment. Mais il faut aller de l'avant malgré tout. C'est notre refus d'atteindre ce point dans la pratique qui nous fait tourner en rond sans cesse. Il n'est pas question de devenir un héros. L'héroïsme n'est d'aucune utilité ici. Une grande humilité précède cette mort. Aquin dit quelque part, « Mourez avant de mourir, et vous ne mourrez pas quand vous mourrez. » Jetons maintenant un coup d'œil à l'introduction de ce koan. Il dit, « L'univers est vaste et infini. » Puis il ajoute, « Il est comme un grain de poussière. » il est immense, infini, et tout de suite après, c'est un grain de poussière. De quoi parle-t-il? Comment est-ce possible? Un chat est petit, mais un éléphant est gros. Une fourmi est minuscule, mais le mont Everest est immense. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Avec quel instrument mesure-t-on? Avec quoi évalue-t-on la taille d'un éléphant, d'un chat, d'une fourmi ou du mont Everest? C'est bien sûr avec notre corps. Un éléphant est gros par rapport à la taille de mon corps, et un chat est petit par rapport aussi à mon corps. Supprimons maintenant le corps. Quelle est la grosseur d'un éléphant? Quelle est la taille d'une fourmi? Saisissant et relâchant. Ce sont les deux manières de pratiquer. Saisir, c'est examiner le sens de soi. Poser la question « Qui suis-je ?» c'est examiner le sens de soi. C'est essentiellement regarder à l'intérieur du noyau de ce sentiment. Et son noyau est le conflit, la tension, accompagné souvent de la peur. « Je » est le point de conflit maximum. Et nous cherchons à dépasser, à transcender ce sens de soi, ce sentiment d'être quelque chose, d'avoir une certaine forme. C'est précisément dans la mesure où nous sommes capables de le faire que la grande mort est accomplie. Relâcher, c'est aller au-delà, s'ouvrir à la sagesse du grand miroir, la dharmakaya ou l'ouverture. Afin de pouvoir le faire, nous devons abandonner tout support. Nous devons être complètement seuls. C'est un peu comme marcher en funambule au-dessus des chutes du Niagara sur un fil très, très ténu. Quand on pratique en étant vraiment ouvert, vient un temps où l'on est pris de vertige, cette impression qu'il n'y a rien au-dessous de nous, aucun sol où mettre des pieds. Ce sont les deux manières de pratiquer, et les deux sont des manières de s'ouvrir à la grande mort. Entrant et sortant. Je n'étais pas certain de ce que cela signifiait. J'ai consulté un autre commentaire et apparemment, entrer serait l'illumination en action et sortir la tranquillité de l'esprit. Mais cela importe peu. Il y a cette résurrection, ce Satori ou Kensho, quel que soit le nom qu'on lui donne. Kensho veut dire qu'il y a une ouverture, une lumière, une clarté partout dans le monde entier et en même temps, l'esprit est mort. On le compare parfois à une roche. Il n'y a plus de vie en lui, il est tranquille, au repos. Pour vous libérer de vos entraves, et coupez vos liens. Vous devez transcender la forme et le son. Comment allez-vous transcender la forme et le son? Vous le faites déjà. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire, ni que vous devez connaître, non plus quelque chose à découvrir. Tel que vous êtes ce en quoi tout trouve son être. L'autre jour, quelqu'un s'est plaint en Dokusan de l'emploi abusif d'hyperbole, tel que partout dans le monde entier, et ainsi de suite. Mais il importe que d'une manière ou d'une autre, vous soyez éveillé à la majesté, et ce n'est pas une hyperbole, à la majesté de la pratique. Ce n'est vraiment pas quelque chose que l'on fait juste comme ça. Vous devez transcender la forme. Ainsi que je le disais, c'est votre état naturel. Vous n'avez aucune forme, pourtant, vous apparaissez. Ce n'est pas ce que vous deviendrez après avoir pratiqué pendant 1000 ans. C'est ce que vous êtes dès maintenant. Vous voyez le plancher devant vous? Vous sentez le frottement du coussin? Vous entendez ma voix? Tout ça, c'est vous. Vous n'avez aucune forme, pourtant, vous apparaissez. Dans une autre version, au lieu de dire « transcendez la forme et le son », on dit « Effacez vos traces et avalez votre voix. Effacez vos traces. Toutes ces traces que nous laissons derrière nous. Nous sommes toujours en train de traîner notre passé avec nous. Il y a ce dicton zen. Les oies, en volant, ne laissent aucune trace. Si vous pouviez les visualiser, ces oies qui volent, que laissent-elles derrière elles? Et avaler votre voix signifie que vous devenez muet. Vous ne pouvez plus rien dire. Vous ne trouvez même plus rien à dire. Voilà ce que c'est, transcender la forme et le son. Vous devez supprimer toute trace de l'activité de l'esprit. C'est cette constante onde déferlante de l'esprit qui nous procure ce sentiment de malaise, d'agitation, de peur légère. Malheureusement, la plupart d'entre nous évitent de le voir. Nous regardons le monde comme s'il était réel. Cela nous permet de prétendre que l'esprit n'est pas là. Par contre, si vous travaillez sérieusement en zazen, vous savez très bien ce que je veux dire quand je parle de cet esprit en mouvement, agité, déferlant. C'est vraiment comme l'océan. Si vous êtes déjà allé à la mer, vous savez ce qu'est une mer toujours en mouvement. Mais nous devons dépasser cela. Nous devons voir l'esprit pour ce qu'il est. Il est vide. Il n'a aucune nature propre. Il n'y a pas d'esprit. Dès lors, votre position sera imprenable et votre indépendance totale, telle une falaise haute de 1000 mètres. Ici encore une hyperbole. Elle exprime une position d'immuabilité, là où il y a une fermeté, une solidité, mais sans rigidité. Cela, bien sûr, quand vous avez abandonné le sens de soi, ce point de conflit maximum, comme nous l'avons dit tantôt, là où s'affrontent deux façons conflictuelles d'être. C'est ce qui génère notre sentiment d'effroi, notre sentiment d'insécurité et de vulnérabilité. Et bien que ce sens de soi soit la source de notre souffrance, la chose étonnante est que nous sommes réticents à l'abandonner. Ou peut-être serait-il préférable de dire que nous sommes réticents à faire face à la peur et il est indispensable d'y faire face pour lâcher prise. C'est ça qui doit mourir. Nous avons, à propos de la conscience, une croyance injustifiée. C'est, je dirais même, une maladie. Nous l'envisageons en quelque sorte comme étant nous-mêmes. C'est elle que nous avons la terreur de perdre en mourant. De plus, nous croyons faussement qu'existe un inconscient. Ce que nous appelons l'esprit conscient, celui qui fait bouger les choses, l'esprit qui voit le monde, qui est actif dans le monde, c'est lui l'inconscient. Il ne fait que réagir, il ne peut rien accomplir, il reflète tout simplement. Le véritable inconscient, ce que nous appelons l'esprit lanterne, en anglais « lantern mind », c'est lui le vrai soi, et tout le pouvoir vient de lui. Quand vous travaillez sur vous-même, c'est sur cet esprit que vous comptez, c'est lui qui vous ramènera chez vous. Le sens de soi, l'esprit conscient, la capacité de savoir ceci ou cela, tout ça ne peut rien faire. Vous devez voir cela par vous-même. C'est pourquoi nous vous disons qu'en zazen, si vous permettez réellement à ce qui est d'être, souvent une tension se manifestera, un sentiment d'inconfort, une peur surgira, et c'est elle qu'il faut traverser. Vous devez faire totalement un avec elle, car elle est la base du sens de soi. C'est ce qui tient en place le sens de soi. Les gens se plaignent des pensées qui les envahissent. Ils ne se rendent pas compte que même les pensées qu'ils croient contrôler sont des variations de leurs pensées aléatoires. Comme nous l'avons mentionné maintes et maintes fois, toutes ces pensées aléatoires ne sont là que pour masquer la souffrance fondamentale. Elles constituent un moyen de dissiper l'énergie générée par cette souffrance. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est nécessaire de mourir la grande mort. Si vous travaillez sérieusement sur vous-même, vous aurez l'impression que quelque chose de fondamental cède, l'impression de perdre quelque chose de vital, d'essentiel à la vie. Mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas vital. Ce n'est que votre propre création. Dès le commencement, vous avez présumé qu'il en était ainsi, sans examen. Très jeune déjà, vous viviez cette tension, cette anxiété, cette peur. Il en a été ainsi une grande partie de votre vie. Vous avez cherché des accommodements pour y faire face, afin d'être capable de vivre une certaine paix, ou du moins obtenir un armistice. Cela a constitué la nature de votre vie, et c'est bien parce que vous l'avez reconnu à un certain niveau que vous en êtes au point où vous en êtes en ce moment. Mais ne vous arrêtez pas ici, continuez, soyez courageux. Vous mourrez, alors mourrez. Cela n'a pas d'importance. Après l'introduction, vient le cas, et il met en scène Seppo. Seppo que nous avons déjà rencontré dans le koan, Tokusan et son bol, alors qu'il n'était qu'un aspirant. Plus tard, Seppo devint un maître très célèbre, et les autres personnes présentes dans notre koan, Chokkei et Umon, sont ses étudiants. Vers la fin de sa vie, Seppo écrivit un poème qui commence ainsi. La vie humaine, trépidante et turbulente, n'est qu'un bref instant. Vous avez certainement déjà eu cette sensation. J'ai 86 ans déjà, et je ne peux y croire. J'ai l'impression de ne faire que commencer. Je crois avoir déjà parlé de ce film, The Golden Pond, dans lequel le personnage joué par Henry Fonda célèbre ses 80 ans et prononce un discours où il dit « Ce qui me stupéfie, c'est à quelle vitesse j'y suis arrivé. » C'est tellement vrai. Que vous rappelez-vous vraiment de votre vie? Un flash ici, une image là? Rien n'a de véritable substance. Peut-être une angoisse ici et là, apporte un peu plus de consistance, mais généralement, tout n'est qu'un très vague souvenir. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, n'est qu'un très vague souvenir. Et c'est ainsi. Le réel n'est pas dans le contenu des expériences que nous faisons. Le réel est dans le fait d'expérimenter. C'est ce qui donne aux expériences leur réalité, leur valeur, leur importance. Vous donnez une certaine couleur à cette pièce où vous vous trouvez. C'est un zendo pour vous, un zendo d'un genre particulier, un zendo qui vous est très intime. Pourtant, quand vous quittez le zendo, qu'en reste-t-il? Le poème continue. La vie humaine trépidante et turbulente n'est qu'un bref instant. Comment pouvez-vous demeurer longtemps dans ce monde éphémère? C'est juste. Nous tentons de le stopper. Le temps doit s'arrêter, déclare un personnage dans une pièce de Shakespeare, The Tempest, je crois. Nous devons l'arrêter, nous devons retenir le temps. C'est pourquoi nous prenons des photos, nous le transformons en quelque chose, nous racontons nos expériences à d'autres. Facebook est un moyen de retenir le temps, de le perpétuer. Si quelqu'un d'autre peut le voir, ce doit être réel. C'est une lutte constante contre l'illusion de la mort. À 32 ans, je suis sorti de la montagne. Autrement dit, Seppo est descendu de la montagne. Il y a vécu longtemps en ermite et il en est sorti. Il continue. À plus de 40 ans, je suis retourné à Mine. Il est inutile de relever les fautes des autres encore et encore. Combien de fois le faisons-nous? Nous accordons tellement d'importance aux fautes des autres. Nous devons en parler, nous devons les colporter, nous devons les montrer, les décrier. C'est une de nos maladies, nous les humains. Une maladie dont nous souffrons tous. Et ce n'est pas tant ce qui est dit lors de ces occasions que ce qui est ressenti. Et ce qui est ressenti est un sentiment de supériorité. Se livrer à des commérages et rabaisser les autres est un bon moyen de se rehausser soi-même, de se procurer un fort sentiment de puissance. Si vous découvrez que vous êtes enclin au commérage, n'essayez surtout pas d'arrêter. Tentez d'être présent, complètement présent lorsque vous le faites. Goûtez à fond cette saveur, au sentiment si délicieux de votre grandeur et de votre supériorité. Seppo continue. Nous devons corriger constamment nos propres erreurs. Il est tellement plus facile pour nous de souligner les erreurs des autres plutôt que les nôtres. Et pourtant, ce doit être une pratique continuelle. Nous devons rester tout le temps conscients de l'agenda caché qui nous accompagne partout où nous allons. Et c'est le besoin de se sentir important. Et quand ce n'est pas l'importance, c'est la permanence que nous réclamons. Nous voulons ressentir ce sentiment d'être quelque chose. Nous avons besoin d'être quelque chose. Je signale humblement aux nobles vêtus de pourpre qui peuplent la cour. Le roi de la mort n'a aucun respect pour les brillants insignes que vous portez. Aux rois et aux reines, aux seigneurs et aux dames, aux millionnaires et aux milliardaires. Le roi de la mort n'a aucun respect pour les brillants insignes que vous portez. Le poète romantique Shelley a écrit un sonnet à ce sujet, à la suite d'une conversation avec un ami sur les merveilles de certains monuments égyptiens découverts à l'époque. Dans ce sonnet, il fait référence à la statue du pharaon Ramsès II et il écrit « Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. À côté, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave, infinies et nues, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. » Revenons maintenant à notre koan. Seppo s'adresse à l'assemblée en ces termes. « Il y a un serpent venimeux dans la montagne du sud. Faites attention. Quiconque a vécu dans un pays où les serpents abondent sait qu'on y est constamment sur le qui-vive. Et il y avait certainement abondance de serpents dans les régions montagneuses où vivaient les moines et les ermites. Beaucoup de ces serpents étaient mortellement venimeux. Seppo déclare qu'il y a un serpent venimeux dans la montagne du sud. Qu'allons-nous faire de cela? Voyez-vous, nous voulons transcender le sens de soi. Et pourtant, nous lui avons cédé notre pouvoir suprême. Il est devenu le souverain. Ainsi que je le disais, nous vouons un respect excessif à la conscience. Par conséquent, l'esprit plus profond et la nature du Bouddha au-delà n'ont pour nous aucune réalité. Seul est réel pour nous ce qui est reflété par ce soi-disant esprit conscient, ce soi-disant monde dans lequel nous vivons, ce monde qui est indissociable de l'esprit conscient. La question qui se pose alors quand on entreprend un travail sur soi, c'est comment aller au-delà de cet esprit conscient. Et Shikantaza, seulement s'asseoir, est bien sûr une des façons de le faire. Autrement dit, dans Shikantaza, on ne donne plus aucun crédit à cet esprit. Devant tout ce qu'il nous offre, nous disons non, je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas littéral, cela signifie s'asseoir d'une manière inébranlable, immuable, indifférent aux cajoleries de l'esprit conscient. Rappelons-nous le Bouddha assis sous l'arbre beau. Il était assis en Shikantaza. Mara l'assaillit et lui lança tout ce qu'il avait, épée, lance, tout son arsenal. Et c'est bien ce qui se produit quand on pratique Shikantaza. On est assailli. La pratique consiste à simplement permettre. Si vous tentez de vous opposer, d'intervenir ou de faire usage de ce qui advient, cela signifie que vous y ajoutez foi, que vous lui donnez réalité. La pratique des koans est l'autre façon d'aller au-delà. Quand vous travaillez avec un koan, vous ne dites pas « je ne sais pas, je dois donc trouver ». Quand vous travaillez avec un koan, vous allez directement à la vérité. Je suis, à ce qui est incontestable. C'est pourquoi nous disons que je suis est fondamental à la pratique. Non pas les mots, pas même l'idée, pas plus que la compréhension. La vérité que je suis. Voilà. Il est essentiel pour la pratique d'éveiller constamment cette vérité. C'est la grande foi. La foi et je suis sont deux façons différentes de parler de la même chose. Et à partir de là, on se demande ce que le Coran a à dire à ce sujet. Autrement dit, tous les Corans parlent de vous, du véritable vous, le vous au-delà. On l'appelle aussi la nature du Bouddha, le miroir de la grande sagesse, le Dharmakaya. Ce qui est au-delà. Alors, où cela se trouve-t-il dans ce koan-ci? Seppo dit, il y a un serpent venimeux dans la montagne du sud. Faites attention. Il se trouve que la montagne du sud s'appelait Seppo. Et Seppo fut nommé d'après cette montagne, de même que Joshu fut nommé d'après un pont. Mais sachant que Seppo est le nom de la montagne, qu'est-ce que cela nous enseigne? Seppo est le maître. Voyez-vous, Seppo révèle son individualité. Il révèle sa personne en révélant son nom. Il est la montagne. La montagne est lui. Ils ont le même nom. Ils deviennent les mêmes. Nous donnons existence à ce que nous nommons. Alors, où est la nature du Bouddha, le Dharmakaya? C'est Seppo, évidemment. Seppo, la montagne, le miroir de la grande sagesse. Quel que soit le nom, cela ne change rien. À présent, ne faites pas qu'écouter les mots. Découvrez par vous-même ce dont il est question ici. Si vous ne pouvez le faire maintenant, faites-le plus tard. De quoi est-ce que je parle? Quand je dis que Seppo, le miroir de la grande sagesse ou la montagne, donnez-lui le nom que vous voulez, peu importe. Et il dit, il y a un serpent venimeux dans la montagne du sud. Quel est ce serpent venimeux? Quel est le venin? Le venin est l'enseignement du maître. C'est l'enseignement qui vous détruira, qui vous tuera. C'est le venin de la mort. Et quel est-il? C'est le Coran. C'est le maître qui vous parle, qui travaille avec vous, avec la vérité. Le venin est la vérité, car la vérité vous tuera. C'est pour dire, faites attention. Pourquoi? C'est ce dont il s'agit dans la pratique. S'ouvrir, être prêt, prêt à recevoir le venin, la morsure du serpent, face à cette grande montagne, cette vérité que vous êtes. Chokei, qui était présent dans l'assemblée, dit, « Aujourd'hui, dans ce temple, il y a un grand homme qui perd son corps et sa vie. » Qu'est-ce que cela signifie? Seppo déclare qu'il y a un serpent venimeux. Chokei répond, « Le serpent m'a mordu. J'ai pénétré cela, j'ai compris. » Et quel est le grand homme? Ce n'est pas la personnalité de Chokei, ni Chokei. Quel est ce grand homme qui perd son corps? Le corps de l'illusion, bien sûr, et sa vie, la vie de l'ego. C'est la grande mort. Seppo, le maître, dit, il y a un serpent venimeux ici. Et Chokei répond, il m'a mordu. Gensha, à qui l'incident fut relaté, rétorqua, seul Chokei pouvait répondre ainsi. Mais bien qu'il ait raison, je ne suis pas d'accord. Pourquoi faut-il que ce soit la montagne du sud? Pourquoi dit-il cela? Il existe un monde d'eau dans lequel un moine demande à un autre, « Es-tu d'accord avec tout ce que dit le maître? » Et l'autre de répondre, « Je suis d'accord à 50%. » « Pourquoi pas 100% ?» poursuit le premier. « Parce qu'alors, je trahirai mon maître, » dit le second. Voyez-vous, cette idée qu'un maître, même le plus grand, peut tout donner, donner à 100%, est une impossibilité. Un maître ne peut donner que la moitié. L'autre moitié doit venir de l'autre personne. En quoi ton avis diffère-t-il? Demande le moine à Gensha. Pourquoi faut-il que ce soit la montagne du sud? Répond ce dernier. Pourquoi là, dans cette montagne du sud, cette montagne qui est le soi véritable? Comment allez-vous situer le véritable soi? Umon jeta son bâton devant Seppo et fit semblant d'avoir peur. Quel était ce bâton qu'il a jeté? Puis vient le poème. Le mont Seppo est trop escarpé pour que les gens l'escaladent. Ce qu'enseigne Seppo est trop difficile. Quiconque le fait doit savoir manier habilement les serpents. Il faut être capable de travailler avec les koans et les mondos. Maître Chokei et Maître Gensha ont les mains vides. Ils ont lâché prise. Quand Gensha déclare « Je ne suis pas d'accord », il affirme que l'autre moitié ne peut pas être dite. Y a-t-il quelqu'un qui a perdu son corps et sa vie? Umon sait comment battre les buissons. Si vous partez à la chasse au serpent, assurez-vous de battre les buissons du bon côté. Sinon, un serpent pourrait vous attaquer. Nord, sud, est, ouest, nulle part où le trouver. Soudain, le bâton se dresse. Récemment, je vous ai parlé du koan, au sujet d'un ermite qui, tout en tenant son bâton au-dessus de sa tête, posait la question suivante. Quand les anciens arrivent ici, pourquoi ne restent-ils pas? Le bâton est un élément essentiel dans une vie de moine. Il l'aide à traverser les fjords, à grimper les montagnes, à débusquer les serpents. Le bâton est toujours là pour aider le moine et le supporter. Alors le bâton de Umon, Qu'est-ce que c'est? Il le jeta par terre. Qu'est-ce que ça signifie? Il ouvre grande sa bouche, rapide comme l'éclair. Haussez les sourcils. Regardez aussi attentivement que vous le pouvez. Vous ne le verrez pas. À présent, il est caché sur le mont Sepo.